Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, 10 corps des victimes du naufrage du 3 octobre sur le lac Kivu sont enterrés ce jeudi à Goma. Une cérémonie des derniers hommages organisée à leur égard a eu lieu dans la matinée de ce jeudi devant le stade de l'unité de Goma. Sifa Maguru, notre reporter sur place, nous fait le point dans ce journal. Le corps d'Alexandra Martine Djengo Lumbai, étudiante au Canada, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin où elle avait été vue pour la dernière fois. Les ambassades de la RDC et du Canada se mobilisent pour le rapatriement. L'invité de cette édition est Justin Materania, président de la communauté congolaise du Canada. Il revient sur l'organisation des Congolais pour rendre hommage à Alexandra Martine Djengo Lumbai, étudiante au Canada, dont le corps a été repêché à la marina de l'île Quintin de Saint-Quentin. Bonjour à tous. Au nord Kivu, 10 corps des victimes du naufrage du 3 octobre sur les lacs Kivu seront enterrés ce jeudi à Goma, au cimetière de Makao, dans les groupements Munigi, territoire de Nyiragongo. Une cérémonie des derniers hommages s'est organisée dans la matinée devant les stades de l'unité de Goma. C'était en présence de la ministre des Affaires humanitaires et des gouverneurs du nord et sud Kivu, ainsi que plusieurs autres autorités politico-militaires. Nous en parlons avec Sifa Maguru depuis Goma. Bonjour Sifa, quelle est l'ambiance qui règne en ce moment au stade de Goma au sujet des obsèques des victimes des naufrages?
Oui, bonjour Patience Banangue, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. C'est une cérémonie pleine d'émotions qui s'est déroulée, qui a fini d'ailleurs. C'était en présence d'une foule immense observant avec amertume l'exposition des corps entourés des membres des familles et des amis. On a observé un chagrin et le mécontentement dans les commentaires de la population qui a assisté à ces funérailles. Il faut souligner qu'ici, il y avait une famille qui a perdu 5 de ses membres. Imaginez-vous comment ces membres étaient inconsolables. Tout le monde a déploré et condamné ce qui est arrivé, ce tragique accident qui a arraché des êtres chers à leur famille. Ce sont notamment des femmes commerçantes avec leurs bébés, de jeunes aux fleurs de l'âge, de jeunes parents. En tout cas, les victimes étaient de toutes catégories.
Et que retenir de la cérémonie elle-même?
Oui, patience. La cérémonie a commencé par un culte œcuménique avant les discours des différentes autorités, notamment de la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, ainsi que du vice-gouverneur du Nord Kivu. S'en est suivi les dépôts des gerbes et des fleurs et quelques témoignages. C'est après cette étape que le cortège funèbre s'est directement dirigé au cimetière de Makao, en territoire de Nyiragongo, une dizaine de kilomètres au nord de la ville, pour la mise en terre. Voilà.
Qu'en est-il des autres victimes de Minova et ailleurs?
Une vingtaine d'autres corps vont en principe être rapatriés demain vendredi vers Minova et Idui, où seront organisées d'autres obsèques dignes pour ces victimes. Pour ceux de Minova, comme l'a su bien expliquer le gouverneur du Sud Kivu hier, des dispositions sont déjà prises avec le moyen de l'État pour l'enterrement dans un cimetière commun. Deux ou trois autres corps devront être acheminés sur l'île d'Idui, d'où ils sont originaires, nous a laissé entendre les familles des victimes. Voilà brièvement la situation, patience.
Merci Sifa Maguru. Pendant ce temps, toujours au nord Kivu, un calme précaire s'observe ce jeudi après des violents combats ayant opposé hier mercredi les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans les groupements Mufunishanga. C'est autour de Bweremana, au sud du territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les actes de représailles qui s'en sont suivis auraient fait au moins 7 morts parmi les civils. Bernardin Nyangi.
Les positions des combattants VDP Wazalendo ont été la cible des attaques dans la matinée hier mercredi des rebelles du M23 au village Bwanga, Kishongia et Kirumbu dans le groupement Mufunishanga, chef Fred Baoundé, informe certains notables contactés ce matin à Bweremana. Selon ce leader communautaire, les accrochages ont duré 4 heures, soit de 6 heures à 10 heures locales. Les combattants locaux ont réussi à repousser cette attaque des rebelles. Pour autant, ce soudain accrochage, après un long moment d'accalmie, a fait des victimes collatérales parmi les civils. Ces sources dressent un bilan de 7 civils tués, dont 2 femmes et au moins un enfant dans le village Bwanga et Kabassé. 6 autres personnes, dont 3 femmes et 2 enfants, ont été blessées. La société civile dans la zone déplore aussi le fait que, depuis 4 semaines, les habitants de plusieurs villages montagneux de cette partie de Mufungishanga n'arrivaient plus à Bureimana. Elle parle d'une interdiction des mouvements vers la zone contrôlée par le gouvernement qu'aurait imposé le 1-23 sur cette population civile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Plusieurs régions de l'Ituri connaissent des pluies abondantes ces dernières semaines. Des cas d'inondations et des glissements de terrain sont observés notamment dans les territoires des Maagi et d'Irumu. À Bougna par ailleurs, ce sont surtout les déplacés qui en payent les prix. À chaque fois qu'il pleut, ils vivent un calvaire. Leurs abris fait des bâches depuis au moins 5 ans, suintent de partout. Sadiki Aboubakar s'est rendu dans un site de la ville. Voici son reportage.
Nous sommes dans le site des déplacés de Kigonze. Sous un ciel nuageux, quelques familles commencent déjà à s'inquiéter de la probable tombée de la pluie. Devant nous, une mère de famille est entourée de ses 3 enfants, visiblement affamés. Cependant, une inquiétude se lit sur son visage, la pluie qui s'annonce. Car ses enfants et elle vivent sous une vieille tente, laquelle suinte de partout. Abeti Namadasi, c'est ainsi qu'elle s'appelle, s'imagine déjà le calvaire à venir.
À chaque fois qu'il pleut, nous vivons du calvaire. Et lorsque la pluie est accompagnée d'un vent violent, c'est encore pire. Ces bâches ont tendance à se détacher de l'abri. Regardez comment cet abri est déjà vieux. Ça suinte de partout. Pendant la nuit, on est obligé de rester debout avec les enfants jusqu'à ce que la pluie cesse pour maintenant étaler nos nattes dans la boue. On est exposé au paludisme tous les jours.
Ces abris datent d'au moins 5 ans. Les bâches, en lambeaux, nécessitent d'être changées, affirme-t-elle. Il y a de cela 2 semaines, la maison de communication Vodacom a assisté quelques centaines de familles avec notamment de nouvelles tentes, mais le besoin reste énorme dans ce site qui héberge au moins 3300 familles. Bougna, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Parlons de cette triste nouvelle qui affecte la communauté congolaise vivant au Canada. Le corps d'Alexandra Martine Djengo Lumbai, étudiante au Canada, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin où elle avait été vue pour la dernière fois. L'étudiante de 21 ans manquait à l'appel depuis mercredi dernier. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort de la jeune femme. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Josca Kabongongoy, qui s'est rendu à Trois-Rivières, lieu du drame, a exigé l'autopsie sur les corps retrouvés afin de déterminer les causes de cette disparition. Vous pouvez l'écouter dans cet extrait.
C'est avec une grande tristesse que je suis venu ici pour constater personnellement ce qui s'était passé et constater personnellement l'endroit où notre fille a trouvé la mort. Nous allons demander une autopsie pour avoir vraiment l'équerre nette des circonstances de ces décès. Donc l'ambassade est prête même pour payer cette autopsie. Donc dès que nous quittons ici, nous allons nous diriger vers la mairie. Et aussitôt que nous aurons quitté la mairie, nous allons nous diriger vers la morgue, mais nous exigeons que les enquêtes se poursuivent parce que nous avons besoin de connaître la vérité sur la disparition d'Alexandra. Nous sommes en contact avec la famille. Le gouvernement congolais est en contact aussi avec la famille. On est en train d'accompagner. Je voudrais vous dire à tous les étudiants, soyez rassurés que l'ambassade ne saura jamais vous abandonner.
Ici à Kinshasa, le gouvernement, à travers la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, travaille avec la famille, mais aussi avec l'ambassade du Canada en RDC pour le rapatriement de la dépouille de l'étudiante congolaise de 21 ans de l'Université du Québec. Les 3 parties ont évoqué l'évolution de l'enquête policière, mais aussi les prochaines étapes dans ces dossiers. Écoutez tour à tour l'oncle de la victime et l'ambassadrice du Canada en RDC.
Nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci.
De la jeune étudiante congolaise qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé hier à Trois-Rivières dans la province de Québec. Donc, nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC et le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire.
C'est un dossier signé Blaise Makassi. Élection de la RDC comme membre au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, les réactions des ONG de défense des droits humains continuent d'alimenter les débats. Tout en saluant cette nouvelle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, et l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, affirment que cette élection est une responsabilité et une interpellation des autorités à plus d'actes concrets dans la promotion et la protection des droits humains. Par contre, la Fondation Bill Clinton pour la paix s'est dit déçue de cette élection et reste sceptique quant à l'amélioration par les autorités congolaises de la situation des droits de l'homme au pays. Grâce à Mzati.
Pour Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, il est temps que la RDC fournisse un effort d'être un pays modèle en matière de droits de l'homme.
C'est aussi une responsabilité pour le peuple congolais parce que maintenant, nous avons une corde par laquelle nous tenons le régime du président Tshisekedi pour lui rappeler ses obligations nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Et je pense que c'est une opportunité pour le pays de faire un pas dans la bonne direction en libérant les personnes qui sont aujourd'hui en détention ou qui ont été condamnées injustement pour démontrer que cet engagement a de l'impact direct sur la situation de droits de l'homme dans notre pays.
De son côté, Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix pense qu'avec le tableau sombre de la situation des droits de l'homme au pays, cette élection de la RDC ne rassure pas.
Nous avons des cachots clandestins, nous avons des lenteurs judiciaires, nous avons d'enlèvements, ainsi, alors que l'enlèvement constitue un crime. Et nous avons les constitutions, mais qui ne sont pas respectées. Si peut-être il peut profiter de cette élection pour arranger les choses, tant bien, mais je n'espère pas de quelque chose de bon.
Rappelons que le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres, dont désormais la RDC, élu pour un mandat allant de 2025 à 2027.
Le ministre d'État et ministre de la Justice était ce mercredi à la prison de Kipushi, à plus de 30 kilomètres de Lubumbashi, où il a libéré 53 prisonniers. Un jour auparavant, 13 autres personnes étaient sorties de la prison de Sodimiko à Kasumbalesa. Ces derniers étaient déjà condamnés pour des faits bénins et éligibles à la libération conditionnelle. À Kasumbalesa, tout comme à Kipushi, Constant Mutamba a organisé aussi des consultations populaires. Partout, les intervenants lui ont soumis les dossiers relatifs au conflit foncier, à la fraude douanière, à la complaisance dans la manière de rendre justice par les magistrats, aux tracasseries policières et autres. Constant Mutamba a promis de s'y pencher pour voir dans quelle mesure ceux qui les méritent peuvent être rétablis dans leurs droits. Et puis, la Cour de cassation a condamné en début de ce mois trois hauts magistrats de la Cour d'appel du Olomami. Ils étaient poursuivis, entre autres, pour corruption. L'ONG de défense des droits de l'homme, ACAJ, Action congolaise pour l'accès à la justice, cette décision est qualifiée de pédagogique, tendant à redresser la justice pour notamment lutter contre la corruption. Jean Gandou.
L'interpellation et la condamnation de ces trois hauts magistrats fait suite à un audio balancé sur les réseaux sociaux dans lequel deux d'entre eux et un avocat parlent du partage d'une somme de $35,000 mise à leur disposition par un client. Dans ce même élément sonore, on pouvait entendre les incriminés décrier le mauvais partage que leur chef en a fait. S'étant saisi du dossier, la Cour des cassations les a poursuivis pour corruption et blanchiment des capitaux. Ainsi, ils ont été reconnus coupables et ont écopé des peines allant des 2 à 7 de prison assorti des peines complémentaires. Cette condamnation est saluée par Georges Kapiamba, président national de ACAJ, une ONG de défense des droits de l'homme.
Nous encourageons le Conseil supérieur de la magistrature à poursuivre avec cette nouvelle politique de lutte contre la corruption, car ce fléau a mis à genoux la RDC et nous pensons que en luttant contre cette corruption, le pays pourra se développer.
À Kamina, le sort réservé à ce haut magistrat a reçu aussi un écho favorable, comme nous l'indique Fiston Nyembwe, notable du coin.
Ce qui était rêve est devenu une réalité. Auparavant, les gens se croyaient être intouchables. Les hauts magistrats aujourd'hui qui se retrouvent être condamnés, une chose qui n'était pas facile. Vraiment, nous saluons la bravoure de la justice.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Plus de 215 personnes, en majorité des jeunes ainsi que des femmes, présentent des troubles mentaux sous diverses formes au centre de santé mentale Lobico en Ituri. Ces chiffres ont été rendus publics mardi par les gestionnaires de cette structure. Plusieurs raisons expliquent ces fléaux, entre autres la guerre qui sévit depuis plusieurs années dans la province qui cause des traumatismes. Ezekiel Mouzalia a visité ces centres hospitaliers en marge de la semaine dédiée à la santé mentale. Voici son reportage.
Ils sont nombreux dans la cour, certains avec leur neuropsychiatre en train d'exercer des travaux manuels, d'autres effectuent des exercices d'adaptation alors qu'il fait presque 15 heures, d'autres encore viennent à peine de se réveiller et s'apprêtent à prendre bain. En franchissant la porte d'entrée de l'enclos, nous rencontrons une dame dont les séquelles des traumatismes sont encore visibles et qui se jette à nos genoux.
Ce qui me préoccupe beaucoup, ce sont mes enfants. Déborah, par exemple, qui est sourde. Elle a été atteinte de méningite. Je suis venue ici chez ma mère. Et c'est elle qui m'a amenée ici à Saint-Mélo.
L'infirmier titulaire de cette structure sanitaire indique que la plupart des troubles mentaux viennent des territoires affectés par les conflits armés. Ils affirment avoir vécu des scènes atroces, des tueries, viols ou extorsions de leurs biens. Anissé Vialouva, infirmier titulaire du centre de santé Saint-Mélo.
Nos malades viennent des périphéries de la ville de Bougne pour venir se faire traiter. Alors, nous avons les gens qui viennent de Mambasa et même les gens qui viennent de Biakato.
L'insécurité étant l'un des facteurs qui conduit à des troubles mentaux, les gestionnaires de ces centres hospitaliers demandent au gouvernement de restaurer la paix en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En province du Maniema, plus de 1000 nouveaux cas de maladies mentales ont été enregistrés jusqu'au mercredi 9 octobre. Le médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé mentale qui révèle ces chiffres fait savoir que cette journée mondiale de la santé mentale est une opportunité pour sensibiliser la communauté sur les enjeux de cette maladie.
Actualité internationale.
Les inondations se poursuivent au Tchad et notamment en N'Djamena. Pluies diluviennes et crues du fleuve Chari ont déjà submergé les rues de plusieurs quartiers de la capitale. Un événement particulièrement intense en cette saison des pluies et qui devrait encore s'aggraver dans les jours à venir. 8,18 mètres, c'est mercredi 9 octobre 2024. Le fleuve Chari a atteint un niveau inédit gonflé par les importantes précipitations qui s'abattent sur les Tchads.
L'invité.
L'invité de cette édition est Justin Materania, président de la communauté congolaise du Canada. Il revient dans cette interview sur l'organisation des Congolais pour rendre hommage à Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante au Canada dont le corps a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin. Il revient aussi sur l'organisation de la prise en charge psychologique des proches de la disparue et du climat qui règne au sein de la communauté. Justin Materania est interrogé par Blaise Makassi.
Justin Materania, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
La communauté congolaise est sous le choc après la découverte du corps sans vie de l'étudiante Alexandra Diengo Lumbai. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
C'est un choc réel pour toute la communauté, parce que ça a été un choc de surprise. On ne s'attendait pas. Et tout d'un coup, on reçoit la nouvelle qu'il y a une disparition. Depuis le vendredi, quand la nouvelle était sortie, tous les Congolais et toutes les Congolaises, en tout cas du Canada, s'étaient mobilisés. Et nous sommes en deuil pour la perte de cette jeune fille de 21 ans qui nous a quittés dans des conditions non encore illicites, puisque la police est en train de faire ses enquêtes. Actuellement, je ne peux rien dire, effectivement, puisque comme... vous le savez, cette mort est inexpliquée et sous enquête donc de la police, du moins la police locale de Trois-Rivières, mais aussi de la Sûreté du Québec. Donc, nous attendons que les résultats des enquêtes soient publiés pour en savoir beaucoup plus, puisque nous faisons confiance à la police.
Comment la communauté congolaise a accueilli l'annonce de cette triste nouvelle?
Nous sommes en train de miser sur la solidarité congolaise qui est là. Évidemment, nous avons mobilisé les Congolais qui sont voisines de la municipalité ou de la ville de Trois-Rivières, notamment Montréal, Granby, Drummondville, Sherbrooke, Québec. Tous ces Congolais qui vivent dans ces différentes villes avoisinantes, et pour le moment, ils sont vraiment très solidaires. Ils partent là-bas pour aller aider les autres Congolais qui vivent à Trois-Rivières, de voir comment nous pouvons passer solidairement cette épreuve. Nous sommes en train, en tout cas, de regarder comment nous allons nous soutenir puisque c'est notre deuil, c'est un deuil des Congolais. Mais nous avons le soutien aussi des autres communautés africaines, mais aussi le soutien de la communauté des Canadiens et Canadiennes ici, qui nous soutiennent et qui sont aussi tristes, des Antillais, des Moyen-Orient, qui sont vraiment solidaires et qui sont aussi tristes aussi. C'est toute la nation canadienne ici, dans son ensemble, qui est vraiment attristée par cette triste perte.
Et comment vous vous organisez pour rendre les derniers hommages à la défunte?
Nous sommes en train de nous organiser depuis hier, puisque c'est hier que nous avons été informés que le corps a été retrouvé et qu'il a été identifié exactement comme étant Alexandra Lumbayi. Alors, il y a une équipe qui a été mise, dis-moi, sur place pour gérer cette situation. Et là, nous sommes en train de préparer les choses pour, un, les funérailles, mais aussi l'arrivée de la famille qui viendra de Kinshasa. Toute la communauté vraiment est mobilisée de partout au Canada pour accompagner, mais aussi nous savons que toutes ces démarches-là vont demander financement, vont demander des sous. Alors il y a un mécanisme de financement des sous qui sont mis en place pour que nous puissions faire face au moment de l'enterrement. Tout dépendamment de la famille, si la famille décide qu'effectivement le corps va être rapatrié, nous allons accompagner la famille dans cette décision-là. Mais si la famille décide qu'elle va être enterrée ici au Canada, là nous allons toujours l'accompagner. Et nous allons toujours accompagner la famille. Et évidemment, nous attendons que la famille vienne pour que nous puissions dire exactement quels sont les plans pour les funérailles.
Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour accompagner psychiquement les proches qui sont affectés en pareille circonstance?
Nous avons déjà mis en place des psychologues, des travailleurs et sociaux. Nous apprenons que la maman est en train de faire des démarches pour qu'elle puisse arriver ici. Mais une fois ici, évidemment, il y a des équipes de psychologues qui vont se rendre à Trois-Rivières pour aller accompagner la maman dans ces moments difficiles, dans ces moments douloureux. Alors, mais aussi ici, nous avons lancé une annonce que tout celui qui veut avoir un soutien psychologique, de pouvoir nous téléphoner. Le numéro est disponible. Et pour que nous puissions faire face à ça. Donc, nous avons des gens qui sont déjà disponibles pour voir comment atténuer les effets négatifs de cette triste nouvelle.
Justin Matiranian, merci.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Merci à Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa qui a assuré sa mise en onde. Également à Martin Sebujangwe et Élisée Tchukota Chivueta qui l'ont préparée. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous de votre attention.